Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième numéro d'Histoire et de Contes. Aurélie pour vous servir. Cette édition, toujours sous le signe de Jean-Claude Rouchouz, notre auteur des plus assidus de cette émission. J'en profite d'ailleurs pour annoncer lors du prochain numéro d'Histoire et de Contes, Marina Deschenet viendra nous proposer quelques-uns de ses textes. Donc aujourd'hui pour ce numéro, nous allons écouter trois histoires. La première que l'on écoutera tout de suite, qui s'intitule « L'Ostropotamobus », une histoire d'amour. Amour, vous le verrez, violente. Bonne écoute.
Ostropotamobus. Je suis follement amoureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Tout me plaît en elle. Sa démarche serpentine diffuse des ondes de plaisir dans tout mon corps. Son regard, qui perce mon être entier, me subjugue. Son odeur d'algues, de roseaux et de cresson mêlés affole mes papilles. Quand je vois la façon particulière qu'elle a de se déployer, je ne suis qu'admiration. Et je ne vous parle pas de la symétrie de ses rangées de cils, de la synchronisation parfaite de leur battement, de ses couleurs d'ardoise et de la blancheur du dessous de ses membres. Tout est parfait. Ma palipèce chérie du grand lac de Luc, je t'aime. Quand tu te déplaces devant moi, je suis paralysé d'émotion. Je n'ose même pas sortir de mon enchevêtrement préféré de racines. Un jour cependant, j'oserai. Mais d'abord, je dois observer le grand séducteur du coin. Un macho impressionnant, 12 cm, de la pointe du rostre à la queue déployée, 12 ans d'âge et de l'expérience, des pinces monstrueuses qui font fuir tous les concurrents. J'observe sa technique. Il se place devant la femelle à séduire, lève ses pinces et recule en décrivant une sorte de spirale pour la faire sortir de sa cache. Elle marche presque toujours. Il faut dire que ces dames sont comme hypnotisées par les énormes pinces qu'il agite devant elles. Je décide de l'imiter. Un soir, à la tombée de la nuit, dans le silence des hautes berges de la Drôme, garnies de ronces d'aubépine et de cornouillers qui nous protègent des intrus, je m'aventure près du trou préféré de mon aimé, sous la souche d'un vieux saule. Je lève mes pinces et je commence ma danse spiralée. Échec total. Rien ne sort du trou, à part une petite femelle immature de 5 cm, une colocataire. Pas de quoi fouetter un chat. Le lendemain, je recommence et je vois l'objet de mes rêves sortir de son trou. Je lève mes pinces plus haut, j'accélère ma spirale, je lui donne une forme en 8 et je frétille même de l'abdomen. Dans mon style loufoque, j'ai toujours été un créatif. De plus, je me fais un point d'honneur à ne pas strictement imiter le macho. Elle avance vers moi, avec son élégance habituelle, me fixe de ses pédoncules oculaires. Je manque de m'évanouir sur place. Je spiralise de plus en plus. Elle s'approche au plus près et d'un seul coup se renverse sur le dos, me faisant signe avec ses pinces de m'allonger sur elle. Je m'exécute, je sens les appendices tubulaires de mes pléopodes avant vibrer et je dépose dans un mouvement de tout mon être deux spermathèques à l'entrée des deux orifices de sa troisième paire de pattes. Je m'évanouis un court instant de plaisir. Je crois même que je me suis endormi. Quand je me réveille, ma dulcinée a disparu. Le lendemain, je m'agite devant son trou. Personne. Le surlendemain, personne non plus. Je déprime. De plus, j'ai horriblement faim. L'amour m'a creusé l'appétit. 3 jours sans manger le moindre bout de myriophile ou de veron mort, c'est trop pour moi. C'est alors qu'une agréable odeur de protéines vient stimuler mes antennes. De toute la vitesse de mes six pattes locomotrices, je me dirige vers cette source inespérée de nourriture. Je me précipite dessus et me mets à la déchiqueter avec mes mandibules et mes petites pinces. Mais soudain, je me sens entraîné vers l'eau. J'ai à peine le temps d'entrevoir la petite femelle passer à travers les mailles d'une sorte de filet et retomber dans l'eau. Mais moi, j'ai beau allonger devant moi mes pinces, elle reste accrochée. Je me retrouve paniqué, à l'air libre, sur la rive. Un être inconnu me saisit par le dessus du corps. C'est une sorte de pince unique avec deux articulations pour l'un des côtés de la pince et trois pour l'autre. La pince allonge ma queue et me dispose le long d'un bout de bois aplati. Puis je suis précipité dans une prison verte et jaune, emplie d'eau, où je retrouve 11 compagnons d'infortune, y compris le macho, tous mal. Nous avons beau déambuler dans notre prison, l'explorer dans tous ses recoins, impossible d'en sortir. Tard le soir, la pince me saisit, puis une autre pince serre mon telson, le tord d'un seul coup et tire. Tous mes intestins quittent mon corps. Dans un dernier souffle branchial, j'ai le temps de dire « mon amour, prends soin de nos œufs. Garde notre progéniture 6 mois sous ta jolie queue repliée et ne m'oublie pas. La nuit se fait en moi. Je me revois petite écrevisse naïve et curieuse, puis vers annelée, se déplaçant sur d'antiques vases lacustres, puis amibe géante rampant sur des bouts océanes. Au bout du voyage, il y a une divine lumière où je me dissous, particule parmi les particules. Adieu, mon amour, pour toujours.
Tout de suite, pour continuer, deuxième nouvelle, l'autobus de Valence. Un voyage au cœur d'une réincarnation, comment dire, express.
L'autobus de Valence. Aujourd'hui, je décide de visiter Valence, préfecture de la Drôme. J'aime bien cette ville. La majorité des touristes ont tort de se contenter de la traverser à 110 km/h par l'autoroute du Sud sans s'y arrêter. Je pars en voiture de Die. Arrivé à Valence, où j'ai mon astuce pour me garer sans payer de parking, je stationne rue des Frères Lumière, entre deux murs aveugles, à côté d'une borne rouge à incendie. À pied, j'emprunte le pont qui franchit les voies ferrées. Sur l'une d'elles, il y a un train jaune au rouage bizarre, marqué Bonandrini 108-475S. Puis je longe un mur où l'on voit des locomotives en bas-relief. J'arrive à la gare de Valence. De là, je me dirige vers l'avenue du Général de Gaulle, où je prends un autobus. En fait, c'est une navette. Un petit car de 12 places qui fait un circuit et se retrouve à son point de départ. Nous sommes en automne, il fait froid et je suis content d'entrer dans un lieu chauffé. Je paye le trajet au chauffeur et m'assois. Je regarde vers l'avenue en attendant que le car démarre. Non loin, il y a un bel immeuble de type haussmannien avec des cariatides. Il est occupé par une banque. Sur sa devanture, il y a une affiche. Ici, nous garantissons 3,5% d'intérêt. Je ne sais pourquoi, mais les banques ont toujours un faible pour les immeubles haussmanniens à cariatide. Le car démarre. Je tourne la tête. Devant moi, il y a un miroir. Je me regarde et soudain sursaute. Dans le miroir, ce n'est pas moi. Ou plutôt, c'est moi. Mais j'ai 2 ans. Un front bombé et lisse, des joues roses, de grands cheveux bouclés, de fins sourcils, un petit nez retroussé. Le regard est à la fois étonné et curieux. Stupéfait comme gêné, je quitte le miroir des yeux. Les immeubles défilent. Le boulevard est large avec une voie réservée aux autobus et de très vastes trottoirs. Nous passons devant une fontaine au lion ailé, des têtes de fauves crassent leur eau dans un bassin circulaire. Voilà le premier arrêt. Je tourne la tête et me regarde à nouveau dans le miroir. Deuxième choc ! Cette fois-ci, j'ai 20 ans. Les sourcils sont plus marqués. Le nez s'est allongé, le menton a perdu son ovale au profit du carré. De longs cheveux satin, toujours bouclés, tombent sur mes épaules. Le teint est bronzé et le regard, assuré, fixe l'horizon. Hypnotisé, je m'observe. Mais l'autobus redémarre et avec effort, je parviens à quitter mon image des yeux. Je regarde le boulevard. Les immeubles sont moins hauts, moins cossus. Il n'y a plus de banque, mais un restaurant marocain avec des danses orientales tous les vendredis soirs. À côté, une régie immobilière et en face, l'immeuble terne du Dauphiné libéré. Le petit car ralentit puis s'arrête. C'est le troisième arrêt. Une force mystérieuse me fait tourner la tête. Troisième choc. Cette fois-ci, j'ai 40 ans. Les cheveux sont courts, quelques-uns sont blancs. Je porte une cravate et un anneau d'or à la main gauche. Le regard paraît soucieux. Trois rides barrent le front. Le petit car redémarre, ses sièges ont un décor géométrique. Une horloge clignote. Elle marque minuit alors qu'il n'est que 14h20. Nous passons devant un parking, puis il y a une longue rue pavillonnaire. La navette ralentit puis s'arrête. Irrésistiblement, je tourne la tête vers le miroir. Je pâlis. Cette fois-ci, j'ai 60 ans. Il n'y a presque plus de cheveux et tous sont blancs. Et vers l'arrière de la tête, aucun n'est frisé. Il y a 5 rides transversales sur le front, 2 rides verticales au sommet du nez, 2 plis amers au niveau de la bouche. Le regard est devenu plus perçant, malgré les lunettes. Il semble me sonder. Il me fait penser au regard de la Joconde. À nouveau, difficilement, je quitte ce miroir des yeux. Nous sommes à côté d'un centre commercial, mais le vaste parking est désert car c'est dimanche. 3 voitures s'approchent et tournent en même temps devant nous, se dirigeant vers la station-service et ses automates, le seul lieu éclairé. Et il y a aussi un magasin consacré à la pêche et un pressing nommé Clean Discount. Pourquoi pas nettoyage au rabais. Brusquement, nous repartons. Secoué, je perds le miroir des yeux. Nous circulons tout près du Rhône, dont l'eau brille sous l'effet du soleil. Un grand pont le traverse. Sur celui-ci, il y a une manifestation. 500 à 600 personnes se tiennent par la main et chantent. Assez, assez du nucléaire, avant, avant l'enfer sur Terre. Assez, assez du nucléaire, avant, avant l'enfer sur Terre. Un homme tient une pancarte sur laquelle on lit « Actif hier, réactif aujourd'hui, radioactif demain !» Le petit car poursuit sa route à nouveau. Il y a des zones pavillonnaires aux rares fenêtres éclairées. Il ralentit et stoppe. Comme l'aiguille d'une boussole qui s'oriente vers le nord, ma tête se tourne vers lui. Nouveau choc ! J'ai 80 ans ! Les cheveux sont rarissimes ! Il y a de nouvelles rides sur le front et sur les joues, des poches sous les yeux, des poils sur les oreilles, les paupières ont du mal à se relever, et le cou est décharné comme celui d'un dindon. Seul le regard est insensé. Le car repart. Je ne vois que le dos du conducteur. Il est noir comme la nuit, et je n'entends que le bruit régulier du moteur, car tous les passagers sont silencieux. Nous passons sous le pont. La navette ralentit puis s'arrête, sans pouvoir m'en empêcher. Je tourne la tête vers le miroir. Je reste comme paralysé. Dans celui-ci, on ne voit plus que des os. La mâchoire inférieure est détachée, les orbites sont vides, les oreilles absentes, les paupières dissoutes. Épouvanté, je me redresse et me précipite vers la sortie. Heureusement, les portes sont restées ouvertes, mais je trébuche et roule dans le caniveau. Impossible de me redresser. Je me regarde. Je n'ai plus ni bras, ni jambes, ni tête. Je ne suis plus qu'un petit œuf qui roule, qui roule, qui roule. Par chance, je suis stoppé net par une pierre qui m'évite de tomber dans les égouts. Je reste là, pétrifié. Mais peu à peu, le soleil de Valence me réchauffe. je me sens bouger et j'éclos. Sortant de ma coquille, je déplie mes ailes et je m'envole. C'est là que, planant au-dessus de la ville, pour la première fois de ma vie, je découvre l'éternelle et infinie liberté de l'esprit.
Et voilà, troisième et dernière histoire de ce numéro. Comment se construire un réseau, l'histoire d'une plante à l'intelligence indéniable.
Comment se construire un réseau ? J'aime beaucoup mes pieds. Ils sont fins, d'une belle couleur verte, luisant au soleil. À l'aide de chevilles souples comme des roseaux, je les laisse se balancer dans la brise du soir. Nombreux sont ceux qui se moquent de moi. Regardez ces pieds de griffon, voilà des pieds à faire peur. Moi, ce mot de griffon me plaît. J'aurais bien aimé en rencontrer un. Avec sa tête altière et ses ailes d'aigle, son corps de lion, venant s'abreuver au bord de la Drôme, près du lieu où je me trouve. Fixant mon esprit sur les eaux claires, je me suis concentré sur le problème que j'avais à résoudre. Comment assurer ma descendance, sachant que je n'avais aucun moyen pour me déplacer, fixé à jamais au lieu où je suis né. Je commençais par travailler sur mon odeur. Lentement, je changeais ces molécules pour qu'elles deviennent de plus en plus désagréables, fétides, pour tout dire. J'avais observé que les mouches s'agglutinaient sur une laissée de chevreuil tombée à mes pieds. J'en déduisis que si je donnais à mes fleurs une odeur d'excréments, les mouches viendraient et disperseraient mes grains de pollen. En effet, elles sont venues. Mais ne sont restés que trop peu de temps. Alors j'ai transformé mes pétales en leur donnant une forme de cornet où j'ai mis du nectar. Les mouches sont restées plus longtemps et, divine surprise, les bourdons sont aussi venus me visiter, farfouillant parmi mes étamines pour trouver ce délicieux breuvage. Puis j'ai remarqué d'innombrables petites fourmis s'affairant sur le sol. Et j'imaginais une autre solution. Je mis sur mes graines une substance dont elles raffolaient. Attirées par l'odeur, elles s'emparaient des graines, les transportaient, consommaient plus ou moins leurs friandises, puis les laissaient tomber, car je les avais rendues trop dures pour leurs mandibules. Mouches, bourdons, fourmis, le compte était bon pour la descendance. Par précaution, j'allongeais mon temps de travail et décidé de fleurir plus de 9 mois par an dès la fin de l'hiver. Encore fallait-il ne pas être consommé par les chevreuils et autres biches du coin, sans compter les moutons. Je fabriquais des poisons que je fis circuler dans tout mon corps et auxquels moi-même j'étais insensible. Et voilà la solution. Être inattaquable. Avoir un réseau d'amis d'espèces variées. Quelques dizaines de mouches, un millier de fourmis, une corde de bourdons. Mais il me reste un souci. Je ne vis pas assez longtemps. Mais comment faire pour allonger sa durée de vie ? Mon hygiène est irréprochable. Je ne consomme que du dioxyde de carbone et de l'eau. Je ne me drogue pas. Ma terre d'Ioise n'est pas polluée. Et la nuit, je me repose. Et si j'essayais la méditation ? À votre avis, est-ce qu'une plante qui médite allonge sa durée de vie ?
Merci d'avoir écouté ce numéro d'Histoire et des Contes. Vous savez qu'il est désormais disponible sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Histoire et Contes. Donc n'oubliez pas le rendez-vous avec Marina Deschenet dans quelques semaines. Elle a décidé de sortir ses écrits. Alors ce sera avec plaisir que nous l'accueillerons. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro. Bye bye.